ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour le Beaujolais, bonjour le Val-de-Saône, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 2 novembre 2022 et il fait toujours sacrément beau dans le Beaujolais. On a quelques petits nuages mais on profite toujours du soleil et les températures montent jusqu'à 17-18 degrés cet après-midi. Au programme de notre émission, on va parler plantes sauvages avec Gabriel Caramana et puis on terminera avec la rubrique sociopolitique du prof Patrick. Et avant tout ça, eh bien, comme chaque jour, on va passer un petit moment avec notre invité. Et on va parler aujourd'hui de harcèlement scolaire. On en entend de plus en plus parler pour cause les chiffres qui diffèrent un peu d'une source à l'autre, mais ils sont assez alarmants. En 2021, France Info parlait de 5 à 6% des élèves victimes de harcèlement scolaire. Ça monte autour de 10% selon certaines associations. Et le 10 novembre prochain, eh bien, ce sera la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. En amont de cette journée, l'association Protège ton pote organise à Pouilly-le-Monial une journée de sensibilisation, d'information, c'est le 5 novembre, pardon. Et ce sera une journée plutôt ludique avec des conférences, des débats, mais aussi des concerts, des expositions, des ateliers en tout genre. Voilà ce qui vous attend. Pour nous en parler, on reçoit aujourd'hui Nathalie Memedovic, présidente de l'association Protège ton pote. Avant ça, un peu de musique. Il sera en concert lors de cette journée spéciale, c'est Guylain N. Voici son titre, Petite Vie. Nous sommes ensemble sur Clad, il est 12h14. Merci d'être avec nous.
Les matins violents se suivent et se ressemblent, comme les jours de la semaine, les pauses café, les pauses clopes, les coupures déjeuner. La vie glisse moins souvent qu'elle ne rappe sur nos fatigues, nos hésitations, convulsions. Face au radio réveil, j'y vais pas. Vivement midi pour le repas. Vivement le soir, vivement, vivement le RERA. On a tout fait comme ils nous ont dit. On s'est acheté du bonheur à crédit. Des avenirs sur prospectus, des joies sur papier glacé. Avec suppléments et bonus. On a cru à la promesse qu'on serait riche comme Crésus. Le temps a foutu le camp. Les airs de lendemain radieux ont tous pris la clé des champs. Allant de quoi te plains-tu? Voilà ce qu'on a entendu, on a des cases où ranger nos CV, nos compétences et nos cursus, classe prépa et grandes écoles, pour que le statut social décolle, on s'est pris pour la fine fleur d'un doux monde sans écueil. A trop rêvé le monde, on a oublié de le voir comme il est. Aujourd'hui on peine à dire où est le beau, où est le laid. Vivement qu'elle vire, vivement qu'elle vire les petites filles. Une tueuse de lévitation. Elle n'a que la pesanteur et la gravité comme ambition, l'habitance. Elle se veut panse de nos existences, déesse de nos routines, nos pansements, nos rustines. C'est comme un doux baume qui soulage, mais ne soigne pas. On se cramponne, on se blesse, mais on ne saigne pas. Et qu'est-ce qu'on ferait de toute façon, à part vivre nos petites vies, quelques points au-dessus du SMIC, de quoi se payer une assurance vie? Qu'est-ce qu'on ferait, hein? Vu qu'on n'est pas des génies, encore moins des héros. Peu de nous sont des Einstein, ou même des Mohamed Ali. On va vivre nos petites vies, on va vivre nos petites vies. Vivement qu'elle vire, vivement qu'elle vire les petites filles. T'es permis, c'est dans les faunes verts et les culs de juin qu'on va chercher le paradis. Nos gueules de bois de demain seront nos temples de l'oubli, pour remettre à plus tard la quête de l'antidote à l'ennui. Mais le cœur veut vivre la grande vie, pouvoir j'appelle envie. Le bain de ceux qui se couchent le dimanche soir avec la peur du lundi. Mi corazón veut vivre la grande vie. Mi corazón veut japper à l'envie. On a fait mamba sur nos noblesses, jusqu'à ce que la vocation boive la tasse. Nos rêves ne sont plus que de lointains souvenirs que l'on ressasse. Et puis d'abord on s'en fout, on va chiffonner nos noblesses pour aller gagner du flou, ce qu'on viendra claquer dans le vent pour consoler notre blouse. On va discipliner nos rêves qui se comportent en barbouze. On va vivre nos petites vies, on va vivre nos petites vies, on va vivre nos petites vies. Et tant pis pour la grande.
Petite vie, c'était Ghislain N sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Et il sera en concert du coup le 5 novembre à Pouilly-le-Monial pour une journée un peu spéciale organisée par l'association Protège ton pote. Et la présidente de cette association est avec nous en studio pour nous en parler, c'est Nathalie Mémédovic. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venue nous voir. Cette association, elle est assez jeune, vous m'avez dit qu'elle était née il y a un an à peu près, c'est ça ?
Voilà, on a créé cette association en octobre 2021. Mais auparavant, en fait, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi, donc avec certains parents, donc c'est vraiment un projet collaboratif et citoyen, et aussi avec des élus de notre commune, pour lesquels on avait quand même une sensibilité forte sur cette thématique.
Ouais.
Voilà.
Ça vient d'où, du coup ? Pourquoi cette sensibilité sur cette thématique ? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association ?
Alors, déjà parce que je suis maman, une maman inquiète, en fait, sur ces situations qui peuvent être vraiment très dramatique par rapport au harcèlement scolaire. Et aussi, c'est parce que je suis quand même assez impliquée dans les engagements pour cette cause-là. Et j'ai aussi un mandat donc, de représentante parents d'élèves qui me permet de siéger au conseil d'école et aussi au comité de pilotage du projet éducatif du territoire du Beaujolais. Mmh. Et donc, effectivement, c'est des petites problématiques qu'on prend peut-être pas forcément en charge et que maman, moi et d'autres parents, on a décidé effectivement de créer cette association pour permettre à d'autres parents d'avoir du soutien, d'avoir des formations, d'avoir des conférences et d'avoir en fait des informations bien claires avec des actions bien spécifiques par rapport à cette thématique.
D'accord. Le harcèlement scolaire, concrètement, c'est quoi ?
Alors, le harcèlement scolaire, il a été défini par Dan Olvus. C'est lorsqu'un enfant en fait est exposé de manière répétée et à long terme à des actions négatives de la part d'un ou plusieurs élèves. Donc, en fait, dans cette caractérisation, il y a une notion de répétition. Ouais. Il y a une notion aussi de rapport de domination et il y a aussi une intention de nuire. Donc, ça, c'est vraiment les trois caractéristiques du harcèlement scolaire.
D'accord. Et c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est assez répandu. Il y a des chiffres qui vont jusqu'à 10% d'élèves victimes de harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'il y en a de partout et que ça peut tomber sur n'importe quel enfant.
Voilà, malheureusement, c'est pas des choses. C'est vraiment aléatoire. C'est pas des pronostics. On peut pas savoir sur qui ça peut tomber. Il y a effectivement des chiffres qui vont jusqu'à 10%. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 12 millions d'enfants scolarisés. Donc ça veut dire 1 million de victimes. On considère aussi dans le harcèlement scolaire qu'il y a la victime, le harceleur et le témoin. Donc en fait, il y a plus d'un million d'enfants victimes, en fait, quelque part dans cette, dans le harcèlement scolaire.
Parce que le harceleur aussi est victime, non ?
Alors, on dit pas que le harceleur est victime, mais il a été victime. Je pense que quelque part, il y a des dispositions qui font qu'effectivement, il y a eu un mal-être quelque part durant l'enfance, ou même lui-même a été victime dans le cadre scolaire. Mais le harceleur, en général, c'est celui qui a déjà été victime.
Qui a déjà été harcelé auparavant.
Voilà, exactement. Mmh. Et donc, il y a aussi cette notion de témoin qui est aussi très importante.
Ouais, c'est quoi ce troisième rôle ?
Alors, les témoins, c'est vraiment les personnes, enfin du moins les enfants, qui voient des choses, mais qui ne parlent pas forcément. Ou alors qu'ils en parlent, mais peut-être pas forcément suffisamment. Donc là, c'est dans le harcèlement, il y a un espèce de trio un petit peu comme ça qui se définissent.
Et quand on est parents et qu'il se passe des choses à l'école, l'enfant rentre à la maison et on ne sait pas forcément ce qui lui arrive dans sa journée. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comment était ta journée, c'était super, et en général c'est la seule petite réponse qu'on a en deux phrases. Comment on fait pour savoir, pour s'intéresser, pour aborder le sujet?
Alors c'est vraiment toute la problématique en fait, c'est le dialogue. C'est comment est-ce qu'on peut permettre à l'enfant de pouvoir s'extérioriser, de pouvoir parler sur ce qui s'est passé. C'est un travail qui est assez difficile, hein, parce que effectivement avec les différents contextes personnels et culturels de chacun, voilà, il y a des enfants qui sont plus ou moins même à pouvoir parler, d'autres moins. D'où en fait cette association qui va permettre en fait de libérer la parole de chacun, que ce soit pour les parents et pour les enfants, donc par déjà par informer, par faire de la prévention, de la sensibilisation, avec tous nos ateliers participatifs, les formations à l'attention des parents, mais aussi à l'attention des enfants.
D'accord. Et justement, cette association Protège ton pote, vous nous avez expliqué, il y a des parents, il y a aussi des élus qui sont impliqués, si j'ai bien compris.
Tout à fait, oui.
Et ça fonctionne comment? Qu'est-ce que, au quotidien, vous faites avec cette association?
Alors, en fait, l'association, elle a pour finalité la prévention et la sensibilisation de tous les acteurs. Donc, okay. Que ce soit les enfants, les adultes, en fait, du moins le grand public, les élus, les pouvoirs politiques, etc. Et pour cela, en fait, on a plusieurs objectifs. Donc, le premier objectif, c'est faire des conférences et d'organiser donc cette fameuse journée nationale du non au harcèlement pour faire connaître, en fait, au grand public qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui peut être mis en place. Le deuxième objectif, c'est les formations et les ateliers participatifs à l'attention des parents et des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer en fait des ateliers de gestion de conflits, par exemple, de développement de compétences psychosociales, que ce soit pour les parents et pour les enfants. Le troisième objectif, en fait, c'est de mettre en place une cellule d'écoute. On a un numéro de téléphone qui est dédié en fait aux parents qui en ont besoin, et on fait office aussi de médiation, donc entre l'école et les parents. Et le dernier objectif, en fait, c'est le développement de partenariats, que ce soit institutionnel, associatif, qui va nous permettre de pouvoir un peu étendre notre réseau et de pouvoir vraiment plus sensibiliser vraiment notre message à tous les acteurs. Donc les moyens qu'on a, ça va être nos supports de communication, et ça va être tout ce qu'on met en place.
Très bien. Et donc effectivement, il y a cette journée qui est le premier gros événement que vous organisez. Ce sera le 5 novembre prochain, c'est ce samedi. Qu'est-ce que vous avez imaginé à la toute base de la création de cette journée? C'était quoi la première idée que vous aviez en tête?
Alors, la mise en place en fait de cet événement-là, pour moi, elle était quand même, elle m'est parue comme une évidence, parce qu'effectivement, c'est un événement déjà qui est inédit sur le territoire, et il existe une journée nationale du non au harcèlement scolaire, qui diffère de date chaque année. Cette année, ça tombe le 10 novembre. Nous, on le fait le 5 novembre, et ça va permettre en fait quelque part de proposer des animations ludiques, artistiques et culturelles sur cette thématique. Parce que nous, en fait, notre message, c'est à la fois d'informer, mais de désinformer en même temps. Parce qu'on ne veut pas... Alors, voilà, je vais développer.
Il faut faire attention avec ce mot, parce que la désinformation, ça me fait penser aux fake news. Et
alors, pas du tout. C'est l'idée, c'est de ne pas, en fait, avoir un message trop culpabilisateur par rapport aux parents, de ne pas mettre un accent sur là où il n'y a pas d'accent, là où il n'y a pas de besoin, par exemple, mais c'est de pouvoir, en fait, remettre ça dans un contexte. Donc, effectivement, on peut en parler, mais avec, effectivement, une projection de film, une conférence derrière, des expositions d'œuvres d'enfants, par exemple, pour savoir un petit peu, eux, qu'est-ce qu'ils pensent du harcèlement, qu'est-ce qu'ils mettent comme émotion derrière. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui va permettre de susciter la curiosité de chacun, de redonner de la curiosité, de ramener un petit peu les choses, enfin, sortir des écrans et de ramener un peu un lien social entre nous, de rediscuter ensemble.
Et donc, pas faire une journée anxiogène où tous les parents ressortent totalement paniqués, oh là là, mon enfant va être harcelé à l'école, c'est terrible. C'est éviter que ce soit un moment trop inquiétant.
Voilà, exactement. L'idée, c'est ça. Alors, moi, quand tu parlais de désinformation, c'est exactement ça. Donc, okay. on va éviter à ses parents d'avoir effectivement un petit peu d'angoisse ou quoi que ce soit. Justement, on va remettre un peu les choses dans le contexte. Et puis, voilà, le premier thème, en fait, de cette journée, on va traiter de la différence, donc développer de l'empathie. Donc, il n'y a pas que des différences sociales, il n'y a pas que des différences physiques ni génétiques, mais il y a aussi des différences, en fait, de sonorité. Et c'est en ça, en fait, que cette première édition a été mise en place, hein, puisqu'il va y avoir des super artistes. Il y aura donc Issouf Mounkoro, donc, qui est le fondateur du groupe Sabali, qui va nous proposer des chants métissés, qui sera accompagné donc du de son balafon et de sa kora. Et Gisla Haine, donc, qui nous est offert par la mairie de Porte des Pierres Dorées, qui va venir nous proposer ses textes poétiques au travers du slam.
Ouais, il y a un concert de slam à la fin de la journée et l'après-midi, il y a une initiation au slam pour les enfants, apprendre à écrire des textes ou à déclamer, c'est ça ?
Exactement. Donc en fait, ça s'adresse aux jeunes entre 9 et 17 ans. Et c'est une initiation effectivement à l'écriture, parce que le slam, c'est tout un travail d'écriture poétique. C'est aussi l'éloquence, la posture. Et il y aura donc une scène ouverte pour ces enfants qui participeront en fait à ces ateliers-là.
Ok, ça c'est dans l'après-midi à partir de 15h. Voilà. Le matin, ça commence à 9h30 avec la projection d'un film. C'est Un monde de Laura Wandel. C'est quoi ce film ?
Alors c'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes et qui traite sur le sujet du harcèlement scolaire. Donc, par contre, c'est un film qui a été tourné à vision d'enfant, donc caméra à hauteur d'enfant. Et ça fait son effet. D'accord. Pour l'avoir vu, oui, ça fait son effet et c'est très prenant.
Et donc, c'est une manière d'aborder le sujet, de commencer la journée avec ce film. Il y a une conférence qui suit derrière. Peut-être que le film, ça sert d'ouverture à la conférence.
Exactement, oui. Ça va être une introduction, en fait, à cette fameuse journée. Donc, la conférence est animée par Clémence Bonneau, qui est notre psychologue. Il y aura aussi Sophie Créteau, qui est professeure de collège et de lycée, et le référent scolaire de la brigade de gendarmerie de Hans, qui nous suit depuis le départ, en fait. Voilà.
D'accord.
Donc, Clémence Bonneau, psychologue, et l'adjudant Botelier, pour ne pas le citer, qui sera présent, sont les personnes ressources, en fait, de notre association.
D'accord. Et le thème de la conférence, c'est la différence, du coup ? C'est comme le thème de la journée ?
Ah, il faut venir pour pouvoir voir et écouter
surprise.
La conférence. Exactement.
Qu'est-ce qui se passe d'autre de beau ? Il y a une exposition d'œuvres d'enfants. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ?
Oui, alors, on va exposer des œuvres des enfants de la crèche de Hans, puisque l'année dernière, en fait, ils ont fait une thématique sur les écrans. Ils ont sensibilisé sur les écrans. Et donc, en fait, ils ont fait plein de dessins autour de cette thématique sur de la prévention, de la vigilance à avoir, etc., que je trouvais vraiment, vraiment intéressant. Donc j'ai proposé à la directrice de la crèche danse de nous prêter donc ces expositions. Et on a aussi un partenariat avec l'association Créapouille, qui est une association artistique à Pouilly-le-Monial. Et donc ils ont traité sur le thème effectivement du harcèlement et justement on sait voir un peu comment les enfants ont perçu cette thématique là.
D'accord. Et puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Des lectures à voix haute par l'association L'Ombre des Mots. Il y a pas mal de partenaires du coup, il y a Créapouille, L'Ombre des Mots, il y a pas mal de personnes impliquées dans cette journée.
Oui, tout à fait, et j'en suis vraiment ravie et vraiment très, très fière de ce soutien en fait de Porte des Pierres Dorées. Oui, Patrick Auster et l'association L'Ombre des Mots qui sont aussi présents à cette journée-là, qui vont faire une lecture à voix haute sur un texte qui sera quand même assez, porté sur l'espoir, qui va avoir une interprétation quand même, on va dire, à titre de spectacle vivant, qui va mettre ça, qui va jouer ça de façon à ce qu'il y ait une animation, on va dire, concrète et sur un texte quand même qui est peut-être pas forcément qui est quand même assez douloureux, on va dire. Donc voilà, c'est ces partenariats avec la bibliothèque municipale, avec les associations comme Créapouille et L'Ombre des Mots qui nous soutiennent et qui vont nous permettre en fait de faire de cet événement quelque chose de très littéraire quelque part et d'artistique, quoi.
Ouais. Donc c'est le 5 novembre, ça se passe à la salle des fêtes de Pouilly-le-Monial. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Comment est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut se renseigner avant de venir sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas.
Alors, on a une page Facebook, Protège ton pote.
Ouais.
qui est quand même assez active. On a aussi un numéro de téléphone que je connais pas par cœur, mais je pense que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook également. Et on a aussi une adresse mail, donc c'est protegetonpote@gmail.com.
Si on veut plus de renseignements.
Exactement, oui.
Bon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt, donc pourquoi pas le 5 novembre.
Ah bah avec plaisir.
Bonne journée.
Merci.
Ensemble sur Calade.
On va faire une petite pause musicale. On parlait de l'association Protège ton pote. Je vous propose d'écouter Carmen Maria Vega. Voici Avec mon poteau.
Avec mon poteau, ici présent, on vend des badges pour les passants. Nous on fait ça pour démarrer, ensuite on veut faire les marchés. Un jour je suis allée voir ma sœur, j'ai demandé de tout mon cœur si elle voulait m'en acheter. J'ai né la dit avec ton poteau qui est un peu long, crois-moi tu fais pas en passant. En plus vous êtes tout débraillé, vous allez vous faire embarquer. Allons gamine, là tu me fais peur, ce bon, c'est pour les grands, l'heure tu ferais mieux d'aller travailler. Tu parles, on dirait une tata. C'est l'heure d'arrêter d'être folle. Mais si je dis ça, alors là, elle va me chier une pendule à 13 coups. Et après m'avoir traîné dans la boue, elle va vider son sac en foutre de partout. Ce qu'elle t'en a cassé par-dessus tout. Des fois, je voudrais la dominer, la voir à poil et l'empailler. Les piquines, les côtelettes, elle t'aime la faire disparaître. Je ne veux plus me l'encadrer. Un jour, ça va dégénérer. C'est elle qui l'aura bien cherché. Je me trouve cool, je dirais même vraiment sympa, jusqu'à ce que ma grande sœur découle. Elle qui ne me supporte pas, c'est comme ça, elle m'aime pas. Alors je sais ma vie de juin, ah mais elle te plaît trop pas. Même si j'entends ici et là que tu vas pas mieux que moi. Tu sais Yolande, non mais t'es grave, quand je te parle on dirait que t'es pas là. C'est l'heure d'arrêter d'être conne, mais si je dis ça alors là. C'est pourquoi je reste cool, j'entends mais ne relève pas. Donc je me laisse casser la couille, vu que j'ai perdu l'autre combat. C'est comme ça, pas chez moi. Cette fois tu vas payer, tu me rends tout de suite mon CD d'Alizé avant que je te pète ta prothèse du nez.
Bon, c'était une toute autre ambiance dans ce morceau, Carmen Maria Vega. Ça s'appelait Avec mon poteau.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplifusienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, nous allons découvrir aujourd'hui le mélilot blanc, une plante très présente chez nous en cette saison. Et pourtant, elle passe inaperçue, alors que c'est une excellente alliée médicinale et aromatique. On nomme aussi les mélilots mirliro ou trèfle de cheval. Son nom scientifique est Mélilotus albus. Il provient du grec méli, pour miel, car ses fleurs sont très mellifères, et de lotus ou lotos pour le nom de la plante qui indique aussi lotier. Une autre espèce du même genre botanique, un peu moins présente sur le territoire du Beaujolais, mais sans doute plus connue, est Mélilotus officinalis, nommée aussi Trigonella officinalis. Les mélilots sont classés dans la famille des fabacées, anciennement et plus couramment nommées légumineuses. Elle regroupe plus de 19 500 espèces sur Terre. Sur le plan économique, c'est la deuxième famille en importance après les graminées et elle constitue une source de protéines végétales indispensables pour l'alimentation humaine et animale. Voici quelques exemples de plantes sauvages ou légumes cultivés de la famille. Trèfle, luzerne, lotier ou fève, lentilles ou encore pois chiches. Le mélilo blanc est une plante herbacée bisannuelle, c'est-à-dire qui fait son cycle sur 2 ans. Ses tiges, dégingandées aux nombreux rameaux, peuvent dépasser 1 mètre de hauteur. Elles portent des feuilles à 3 folioles, comme les trèfles ou les luzernes. Les petites fleurs blanches sont en grappes serrées et allongées, disposées comme des chandelles. Les fruits forment de petites gousses rondes et pendantes. Seule la couleur des fleurs et les rides des gousses différencient mélilo blanc et mélilo officinal. Ce dernier donne des fleurs jaunes. Malgré son aspect négligé, le mélilo recèle des merveilles, car il dégage, lorsqu'on le fait sécher, tout comme la spérule, un parfum suave et vanillé, dû à la présence de coumarine. C'est d'ailleurs un bon moyen pour l'identifier. Il suffit de prélever un morceau de plante et d'attendre quelques dizaines de minutes pour commencer à sentir son parfum particulier. Ses habitats sont les terrains vagues, bord des chemins, talus, surtout en sol calcaire et jusqu'à 2000 mètres d'altitude. En ce qui concerne ses vertus, on utilise la plante entière. C'est Galien, au 2e siècle de notre ère, qui a introduit le mélilo dans la thérapeutique, comme antispasmodique et aussi comme anesthésique dans les vertiges et les vomissements. Le mélilo est surtout employé comme tonique veineux pour traiter l'insuffisance veineuse chronique sur les vaisseaux capillaires, les varices et les hémorroïdes. Il est efficace aussi contre les ecchymoses. Pour les précautions, des doses excessives de mélilo peuvent provoquer des vomissements. Le séchage du mélilo doit être rapide et particulièrement soigné, car s'il est attaqué par des moisissures, la coumarine se transforme en dicoumarol, une substance toxique qui détruit la vitamine K et rend les vaisseaux capillaires perméables. À ce propos, le mélilo est à l'origine de la découverte des anticoagulants utilisés pour tuer les rats et les souris par hémorragie interne. Maintenant, si je ne vous ai pas fait peur avec les précautions, voici du côté aromatique comment je l'utilise. Une fois séché et conservé précautionneusement, au moment de l'utiliser, je retire les tiges dures et je réduis la plante en poudre à l'aide d'un mortier ou d'une moulinette. Cette poudre va ensuite me servir à aromatiser des desserts, par exemple des crèmes ou des gâteaux. Tenez, vous pouvez prendre une simple recette de gâteau au yaourt et à la place de l'arôme habituel, ajouter dans votre recette 2 à 3 cuillères à café de poudre de mélilo séché. Le résultat donne un parfum que mes papilles identifient à un mélange de vanille et de fleurs d'oranger. Je vous laisse imaginer toutes les recettes qu'il est possible de concocter à l'aide de cette plante aromatique. Je peux rajouter une info complémentaire. Les mélilons font d'excellents engrais verts pour les sols basiques compactés, qu'ils décompactent et ainsi permettent à la vie microbienne aérobie de redémarrer. Ils sont capables aussi de remonter de la roche-mère le phosphore en surface sous forme assimilable. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne connaissais pas le mélilo blanc. On va rajouter un petit peu de groove dans cette émission. Voici Fantastic Negrito, un morceau sorti dans son dernier album en juin dernier. Ça s'appelle Oh Betty et c'est pas mal du tout. Thank you. Betty, c'était fantastique. Negrito sur Calade.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Oui, il est avec nous en studio, c'est le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Mathieu, on va reparler de la voiture électrique.
Ah.
J'en ai déjà parlé une fois, mais ça fait rien, on va en reparler. Bon, tu le sais Mathieu, maintenant c'est certain, on fonce vers une société où toutes les voitures seront électriques.
Ouais.
Ouais. D'ici 2035, donc demain quoi, en quelque sorte, on en aura fini, aucune voiture thermique ne sera plus fabriquée.
D'accord.
En 2035. Il n'y aura que de l'électrique. Nous venons d'assister, à l'occasion du récent salon d'automobile à Paris, au grand départ de cette nouvelle bataille. Alors je parle de bataille parce que c'est l'impression globale que ça donne. Hein. On voit des armées de combattants, les constructeurs automobiles, qui partent au combat à la fleur au fusil, avec plus ou moins d'enthousiasme. Hein. mais ce qu'ils savent tous, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
Ouais.
Que c'est le chemin qu'ils sont obligés de suivre. Ben ouais, parce que ce chemin, il a été imposé par la puissance publique. À commencer par l'Union européenne, qui a fixé cette interdiction de produire des voitures thermiques à partir de 2035, et qui, entre-temps, a fixé des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre si bas que les constructeurs n'ont pas eu d'autre choix à partir de janvier 2020 que de développer massivement une nouvelle gamme de voitures électriques. Bon, alors, on connaît les raisons, hein, elles sont tout à fait nobles. Hein, il faut à tout prix maîtriser le réchauffement climatique, et on comprend parfaitement la motivation de départ. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que ce revirement stratégique majeur a vraiment été pensé sous tous ses aspects. C'est ce que je vais développer dans ma chronique aujourd'hui. En fait, nous semblons bien partis avec la voiture électrique pour foncer dans les mêmes impasses que celles où notre système industriel nous a menés jusqu'à présent. On y va ?
Allons-y. C'est que des bonnes nouvelles, j'ai l'impression.
Comme d'habitude, hein, je suis un oiseau de mauvais augure, mais toujours en rigolant.
Très bien.
Alors, on sait déjà, Mathieu, hein, que la voiture électrique n'a rien d'une solution miracle. On avait déjà, d'ailleurs, abordé la question dans une chronique du 7 juillet 2021 que je mettrai en lien. Comme ça, ceux qui veulent l'écouter préalablement le pourront. Ça nous avait permis, par exemple, de comprendre que si on voulait obtenir des gains nets réellement positif pour la planète, il aurait fallu que l'industrie automobile nous propose quasiment exclusivement des véhicules électriques petits, des petites, voire très petites tailles. Et surtout pas des tanks, genre SUV, Tesla, etc. Bon, bah, c'est déjà mal parti, hein, vous pouvez le constater tous les jours, chers auditeurs, en regardant autour de vous dans les rues. Mais bon, c'est pas ce que j'ai en tête quand je me demande si ce changement majeur a été pensé sérieusement. Tu sais Mathieu, on en a largement parlé, que notre système capitaliste, industriel, s'est d'abord développé grâce à l'exploitation massive de sources d'énergie fossiles, pétrole, charbon, gaz. Et que, outre le problème de réchauffement climatique que ça pose, cette surexploitation est en train, à l'échelle de 200-300 ans maximum, de vider les réserves de notre planète de matériaux que la planète a mis des dizaines de millions d'années à constituer. D'accord ? On a donc un problème, on le sait. Eh bien, figure-toi, Mathieu, que notre système capitaliste industriel ne s'est pas développé que grâce aux énergies fossiles, mais aussi grâce aux ressources minières. Et ça, on le sait moins. Et que notre rythme de consommation de ces ressources minières est également exponentiel et vide également rapidement les réserves mondiales. Je vais mettre dans le podcast deux graphiques, je vais te faire mettre parce que tu es bon comme le pain Mathieu, deux graphiques de consommation sur plusieurs décennies de fer, d'acier, d'argent et de cuivre pour illustrer ça. Et vous verrez que les courbes sont exponentielles. Et oui, dans tous les secteurs industriels, on utilise massivement des minerais. On en trouve partout, même dans les vêtements, même dans la nourriture, même dans les biens d'équipement, que ce soit dans les process de production ou dans le produit fini et le plus souvent dans les deux. Sauf que depuis le début du 21e siècle, on utilise un nombre de plus en plus important de matériaux différents, de métaux différents, excusez-moi. Exemple, un smartphone contient entre 50 et 60 matériaux issus de métaux différents. Une voiture électrique en utilise 75 sur un total de 85 éléments chimiques naturels connus à ce jour. Bref, Mathieu, on racle tous les tiroirs. Et quand on racle les tiroirs, ça fait des dégâts. J'explique. Prenons l'exemple du cuivre. Dans une mine de cuivre, on ne conserve que 2% jusqu'à 0,3%, ça dépend de la richesse de la mine, de ce qu'on a extrait. Le reste, 98 à 99,7%, on le jette à la poubelle, Mathieu. C'est des déchets. Et n'espère pas qu'on parle de recyclage. Non, 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 c'est des déchets finaux, on ne sait pas qu'en foutre.
D'accord.
Alors tu crois peut-être que c'est une exception le cuivre. C'est vrai que dans notre société industrielle, on a commencé en exploitant des métaux plus rentables. je peux parler du fer par exemple, où l'on conserve in fine entre un tiers et les deux tiers de ce qu'on a extrait.
C'est pas trop mal.
Ouais. L'aluminium, c'est entre 25 et 30% qu'on conserve. Bon, tu notes quand même qu'on jette entre 50 et 70% de ce qu'on a extrait. Le problème, c'est que pour les métaux nécessaires dans notre économie capitaliste du XXIe siècle, c'est plus la même chanson. On a parlé du cuivre, alors je vais vous parler du nickel. On conserve entre 1 et 3% de ce qu'on a extrait. Le cobalt, on conserve entre 0,5 et 2,5% de ce qu'on a extrait. L'uranium, on conserve entre 0,1 et 0,3% de ce qu'on a extrait. Le lithium, on conserve entre 0,05 et 0,15% de ce qu'on a extrait. Le platine reste assis, on conserve entre 0,0003 et 0,0015% de ce qu'on a extrait.
C'est si utile que ça, le platine ?
Ouais. Et l'or, c'est le champion. On conserve 1 gramme par tonne.
D'accord.
Extraite. Ouais. On extrait donc des quantités phénoménales de minerais pour une partie utile extrêmement faible quantitativement. Mais ce n'est pas tout. Ce processus requiert une immense consommation d'énergie et d'eau. J'en avais déjà parlé dans ma chronique du 7 juillet 2021 que vous pourrez réécouter, chers auditeurs. Un petit exemple en passant, une mine d'or standard, lambda, moyenne, consomme autant d'eau et d'électricité que 80 000 habitants français. Alors, revoyez ma chronique, réécoutez ma chronique, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus. J'avais pas mal développé ça dans cette première chronique. Faisons de notre côté ce que j'appellerais un point d'étape. Où est-ce qu'on en est dans l'exploitation des métaux aujourd'hui, en 2022? Eh bien, trois enseignements peuvent être tirés. Premier enseignement, les teneurs en minerais exploités diminuent rapidement. On a de moins en moins de minerais contenus dans les mines. Deuxième enseignement, les gisements facilement exploitables sont de moins en moins nombreux. Troisième enseignement, les minerais exploités sont de plus en plus complexes et réfractaires. Réfractaires, ça veut dire qu'ils sont de moins en moins sensibles aux produits chimiques et aux acides qu'on utilise pour les récupérer. Exemple, depuis des décennies, on utilise le cyanure pour exploiter de l'or, pour retirer de l'or, et avec des conséquences écologiques dramatiques. Eh ben, l'or ne réagit plus au cyanure dans les mines qu'on utilise, qu'on exploite aujourd'hui, parce qu'il est trop incrusté.
D'accord.
Donc plus le temps passe, plus c'est compliqué d'exploiter les métaux. Résultat, l'augmentation des impacts environnementaux va être massive. Et on est en train d'atteindre les limites physiques des possibilités d'exploitation des minerais. Au moment même où l'augmentation des besoins en métaux s'annonce gigantesque. Un chiffre, l'Agence internationale de l'énergie estime que la demande globale de métaux pour le secteur énergétique va être multipliée par 4, au moins, d'ici à 2040. Concernant la voiture électrique uniquement, la demande en lithium pour les voitures électriques va être multipliée par 42, la demande en cobalt par 21 et la demande en nickel par 19. Et ce n'est pas des petites quantités, hein, Mathieu. En moyenne, une batterie de voiture électrique contient 50 kg de nickel, 7 kg de cobalt et 45 kg de carbonate de lithium. D'où la question incontournable qui arrive maintenant, est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde ?
Ouais.
Eh bien, c'est une bonne question, je te remercie de me la reposer. Parce que la réponse, on ne la sait pas à 100%, on n'est pas sûr, mais bon, il y a l'Institut français du pétrole, Pétrole Énergie Nouvelle, qui est un organisme public qui étudie ces questions, donne une réponse globalement négative, une réponse assez inquiétante. Non, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Cette étude de l'IFP Énergie Nouvelle indique qu'entre 2020 et 2050, le monde va consommer 30% des réserves mondiales de lithium, 60% des réserves mondiales de nickel, 80% des réserves mondiales de cobalt et entre 60 et 90% des réserves mondiales de cuivre. Tout ça en l'espace de 30 ans. Ça va être torché en 30 ans.
Après, il n'y en a plus. Restera
le reste, ouais, c'est-à-dire pas grand-chose.
Ouais,
et si vous pensez que le recyclage nous sauvera, ne rêvez pas. Il ne permettra pas de couvrir tous les besoins. On estime qu'en 2040, on réussira à recycler 30% du parc de batteries. Voilà. Donc 110%, on ne saura pas.
Et c'est des minéraux, c'est pas des champignons qui poussent tout seuls.
Exactement, ça met quelques dizaines de milliers ou centaines de millions d'années plutôt à apparaître, constituer. Conclusion, Mathieu, notre système économique capitaliste ressemble fort à un poulet sans tête.
Ah oui.
Il court, ça c'est sûr, hein, mais il court sans réfléchir, sans anticiper en quelque sorte. Et il court en faisant bien attention à regarder ailleurs quand des questions gênantes se posent. Donc, une petite métaphore sur les séries télé. Si vous avez aimé l'épisode sur la fin du pétrole, vous adorerez le prochain épisode sur la fin des métaux. Et vous adorerez son spin-off sur les destructions environnementales gigantesques que l'exploitation des métaux provoque et qui vont s'amplifier dans les décennies à venir. J'en ai terminé, Mathieu.
Merci beaucoup, prof Patrick.
On va tous se jeter dans la Saône.
Ouais.
Ensemble sur Calade.
Allez, un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Voici Orelsan avec un morceau qui s'appelle sobrement Baise le monde.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais perception. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique. Qui finira peut-être dans l'océan Pacifique. Ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées select. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar. Qui détruit la barrière de corail sur son passage. Qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille. Vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Il sort 12 survêtes.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine. Qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres. Ça donne un kilo de coton qu'il expédie en Chine. Où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil. Dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trap. Direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoute des mecs qu'on payait une grande école. Qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions. Pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après. Mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme. Ça valait pas la peine. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcherons en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nanananana.
C'est Orelsan sur Calade avec un morceau qui s'appelait Baise le monde.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Elle sera bien entendu en réécoute sur notre site internet radio-calade.fr ainsi que chaque rubrique que vous avez pu entendre. Et puis elle sera rediffusée demain matin à 10h. Dans quelques secondes sur Calade, ce sera l'heure de vos pages d'information quotidiennes. Vous retrouvez le journal de RFI pour tout ce qui est information nationale et internationale. Et puis le journal de Sylvie Rosier à 13h10 pour tout ce qui est information local. On se donne rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à demain. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.